Radicaux Libres. Bonjour à tous, vous êtes toujours sur le 107.3 de Radio Alpa pour une émission intitulée Radicaux Libres, dont les derniers opus sont disponibles dans la page de l'émission Radicaux Libres sur le site radioalpa.com. On aurait pu vous parler des colonies françaises. Cette semaine, la Nouvelle-Calédonie s'est de nouveau embrasée au sens littéral du terme. La Nouvelle-Calédonie est une colonie française depuis le 19e siècle. Point d'appui de la marine dans le Pacifique, c'est au départ une colonie pénitentiaire. Faut dire que peu de Français de métropole rêvent de faire des mois de bateau pour s'installer à la place des autochtones. Les Kanaks. Alors, c'est un lieu de relégation, notamment pour les communards, qui n'ont pas été sommairement exécutés par les Versaillais après l'échec de la Commune en 1871. Depuis, la droite, qui va des macronistes au Rassemblement National, se définit comme loyaliste. En clair, descendant de colons qui souhaitent rester sur place pour continuer à faire vivre les valeurs républicaines en exploitant les ressources de l'île, de ses dépendances et les populations. Et bien de l'autre côté, il y a des indépendantistes qui veulent retrouver l'autonomie de décision qui sied à chaque peuple. Les deux camps s'affrontent régulièrement dans les urnes et dans les rues. En 1988, après l'épisode de l'assassinat des indépendantistes dans la grotte d'Ouvéa par des gendarmes vengeant leurs camarades tués par des indépendantistes, et après une décennie de négociations après cet épisode, des accords entre la métropole et les indépendantistes obligent la métropole a organisé 3 référendums sur l'autodétermination de la Nouvelle-Calédonie. Les deux premiers voient la victoire des partisans de l'occupation française avec une courte avance qui se réduit entre le premier et le deuxième. Le troisième est boycotté par les indépendantistes pour des raisons de pandémie de Covid-19 qui endeuille des familles et amène des regroupements familiaux et des difficultés à penser autre chose que le virus. La métropole garde la date du 12 décembre 2021 pour le troisième référendum et le boycott indépendantiste est totalement effectif. Après des taux de participation de 81 et 85% pour les référendums de 2018 et 2020, celui de 2021 atteint péniblement 43% de taux de participation des inscrits. Et logiquement, le non l'emporte largement. Bon voilà, c'est fait. Les hypocrites assurent avoir respecté les accords de 1998 et les autres ressentent une frustration grandissante. Surtout qu'au quotidien, les régions fortement indépendantistes, les provinces du Nord, la province du Nord et les îles Loyauté par exemple, abritent des populations qui vivent dans une grande misère. Devinez qui habite les provinces en majorité ? Des Kanaks ou des descendants des colons et des métropolitains tentés par l'aventure pacifique. C'est des Kanaks. Ouais, mais je l'avais dit avant. Comme dans le reste des confettis de l'Empire, Guyane, Martinique, Guadeloupe, Réunion, les descendants d'esclaves et les peuples natifs vivent mal. Tant les richesses et l'activité économique sont accaparées par les nouveaux arrivés. De quoi alimenter le ressentiment. Dans les colonies françaises, comme dans toutes les colonies du monde, il ne fait pas bon vivre sous la coupe des colons. La presse et nos soi-disant représentants vont insister sur le retour à l'ordre. Et dans les colonies, les précautions pour éviter les morts n'ont pas tout à fait autant cours qu'en métropole. Déjà, en ce début de semaine, on a un certain nombre de morts. La justification des opérations militaires est toute prête et déjà diffusée. Encore un épisode qui ne grandit pas la fumeuse patrie des droits de l'homme. On aurait pu vous parler de Choose France, un événement qui a eu lieu lundi 13 mai. Un événement durant lequel des grands patrons du monde entier mangent à nos frais dans les décors du château de Versailles. Ces grands patrons ont aussi le privilège d'être accueillis par le mauvais acteur et vrai banquier qui nous sert de péter de la rep. De quoi faire des belles photos et balancer des chiffres de folie. 15 milliards en euros, nouveau, 15 milliards d'euros annoncés cette année. Après enquête, je peux vous dire que, je cite, sur les 122 projets d'investissement annoncés en 6 ans lors des sommets Choose France précédents, qui réunissent à Versailles les grands patrons autour d'Emmanuel Macron, une petite trentaine concernait des ouvertures de nouvelles usines ou de centres de recherche, tous ne sont pas encore sortis de terre. Et voilà ce qu'on apprend dans un dossier du magazine L'Usine Nouvelle qui n'est pas du tout anti-business. L'affichage et l'effet d'annonce de ces gouvernements Là, le macronisme, c'est vraiment affichage et effet d'annonce. C'est devenu une façon de gouverner en soi. Si on s'arrête sur les annonces justement de ce lundi 13 mai, la réindustrialisation passe par l'installation notamment de data centers avec Microsoft qui promet, attention, un investissement de 4 milliards d'euros pour construire des centres de données qui permettent de conserver des mails qu'on pourrait jeter depuis longtemps, envoyer du porno et se gaver de séries. Ouais, super. La vie digitale est préservée. En fait, c'est surtout l'électricité pas chère qui intéresse le géant états-unien de l'informatique. De là à parler de réindustrialisation, de là à parler de centaines d'emplois, une électricité décarbonée en plus, se félicitent les intervenants vantant l'opération Choose France. Oui, parce que sachez, chers auditeurs, que l'électricité provenant des centrales nucléaires est officiellement un moyen de lutter contre l'effet de serre et le méchant CO2. Bon, alors ça produit des radiations en masse dans les déchets qui résultent de l'exploitation des centrales, mais pas de CO2. Centrales nucléaires et data centers. Eh ouais, l'avenir paraît bien sombre proposé par les héros de l'industrialisation. Mais bon, comme les trois quarts des annonces de Choose France depuis 2017, si ça se trouve, les promesses du 13 mai 2024, ça se fera pas.
J'arrête. C'est la minute des enfants. Aujourd'hui, le E.
Le E comme éducation. L'éducation te permet de former ton esprit critique et de mieux comprendre le monde qui t'entoure. Elle permet de se libérer des mensonges du système et t'encourage à agir contre les problèmes de la société. C'est une fenêtre ouverte sur le monde nouveau et meilleur que tu souhaites de tout ton cœur. C'est ce qu'on peut lire sur le dictionnaire anarchiste des enfants aux éditions Atelier de création libertaire. Heureusement que cette éducation n'est pas faite que par l'éducation nationale. On aurait pu vous parler de la montée des actions contre le choc des savoirs, si cher à Gabriel Attal, et la dégradation des conditions d'enseignement dans les collèges. En l'occurrence, les collèges morts. Voilà des actions qui sont faites un petit peu partout en France depuis plusieurs semaines maintenant. Les parents n'envoient pas leurs enfants dans l'établissement et à la place, ils en profitent pour manifester devant l'établissement en question. Lundi 13 mai, c'était en Moselle, le 14 mai au collège Marcel Grillard à Briquebec, bah aussi dans la Manche. Mercredi 15 mai, plusieurs collèges de l'agglomération de Rouen se sont mis ensemble et à 14h, tout ce bon monde est allé manifester dans les rues du centre-ville. Jeudi 16 mai, c'était dans une dizaine de collège du Maine-et-Loire, comme à Honoré de Balzac, un collège de Saumur, à Honneau en Eure-et-Loire également. Et vendredi 17, c'était dans le Var, oui, tous les jours. Des actions dans toute la France. Eh, parce que là, j'ai pas tout cité, ben non, sinon on y passe une demi-heure. Et la semaine prochaine, eh ben c'est la même. Mais quelle mouche pique ses parents ? Au cours d'une journée de grève dans l'éducation nationale début avril, devant la cité administrative Pexan au Mans, on avait rencontré une professeure de maths du collège de Saint-James qui nous avait tout bien expliqué.
Il est indiqué, on trie les déchets, pas les élèves. À quoi vous faites référence ?
Je fais référence aux groupes de niveau qui vont être mis en place à la rentrée pour les 5e et les 6e en mathématiques et en français. Ils vont être triés par groupe en maths et en français, les faibles d'un côté, les moyens d'un autre côté et les forts de l'autre.
Alors, il a été dit par le gouvernement que c'était pas du tout les mots qui allaient être employés, pas faibles, forts, mais des groupes de niveau selon les besoins. Qu'est-ce que vous en pensez ?
Ben en fait, ce qui se cache derrière les besoins, c'est juste qu'ils ont changé le mot, mais ça reste les faibles, les forts et les moyens.
Et à votre avis, est-ce qu'il sera possible de passer d'un groupe à l'autre si, au fur et à mesure du temps, on améliore ses compétences en tant qu'élève ?
En théorie, c'est possible, mais en pratique, ça ne le sera pas du tout. Déjà, les groupes ne vont forcément pas avancer au même rythme, puisque avec les élèves qui ont des difficultés, on avancera moins vite, forcément. Nous, par exemple, dans notre collège, on a 6 classes, 6 groupes de niveau. Donc ça veut dire qu'en fait, les effectifs ne seront pas réduits. Donc si on imagine qu'un élève faible progresse, du coup, ça va encore augmenter les effectifs des groupes supérieurs, c'est-à-dire des moyens et des forts. Et en fait, on aura des groupes surchargés, donc en pratique, on ne pourra pas changer.
Quand vous parlez des groupes de niveau, c'est une opposition au niveau fondamental, au niveau du fond, ou alors c'est la mise en œuvre qui vous gêne ?
Les deux. Ben, on ne trie pas les élèves, quoi. On ne met pas les faibles d'un côté, ça les stigmatise. Ça va créer des tensions, des harcèlements sûrement. Ils vont subir des moqueries d'être dans les faibles. Ils vont se demander pourquoi ils sont dans les faibles, premièrement. Deuxièmement, ils n'auront pas les mêmes chances que les autres parce qu'on avancera moins vite, on fera moins de choses. Ils seront moins aidés par les plus forts, en fait. Les élèves faibles, en fait, ils sont aidés par ceux qui donnent les bonnes réponses, par ceux qui donnent le rythme. Et puis, ils les aident aussi à faire leurs devoirs en pair, mais ils les aident aussi en classe. Quand un élève n'a pas compris la consigne, l'élève d'à côté, lui... lui réexplique. Enfin, on a besoin de cette hétérogénéité dans les groupes pour faire avancer tout le monde, en fait. Et puis, je pense que les élèves forts, ils ont aussi besoin d'un mélange social, de se rendre compte qu'il y a d'autres gens pour qui c'est plus difficile. Voilà.
Alors, ça voudrait dire que ceux qui actuellement sont au gouvernement ne comprennent pas qu'il y a cette entraide à l'intérieur d'une classe. Ils pensent que tout passe par le professeur ?
Oui, je pense. Et je pense surtout que, en fait, cette réforme est vraiment élitiste. En fait, ça a été prouvé que les groupes de niveau, ça ne fonctionne pas. Scientifiquement, ça a été prouvé, ça ne fait pas progresser tout le monde. Ça a une toute petite influence sur les meilleurs élèves. Donc, en fait, cette réforme est complètement élitiste. Elle va juste servir aux meilleurs élèves, c'est tout. Et je pense que le gouvernement, c'est ça qu'il veut.
Donc, des actions dans toute la France, encore, cette semaine. Et à Le Mans, du coup. Eh bien, le 22 mai, alors, 19h-21h30, mercredi 22 mai, grande réunion publique pour les parents et les personnels, puisque tout le monde est touché, à propos du choc des savoirs. Ça se passe donc à la MPT Jean Moulin, la maison pour tous Jean Moulin, derrière Carrefour Centre-Sud, avec des intervenants diverses et variées qui vont donc expliquer ce qu'il en est, mais aussi donner des informations sur ce fameux choc des savoirs et échanger avec la salle, comme on dit. Et le 25 mai, samedi 25 mai, journée nationale de mobilisation, avec un rassemblement au Mans, 10h, place de la République. L'idée, c'est quoi ? Bah, dire non au choc des savoirs pour l'école publique, plutôt des sous que du tri social. Ouais, ce serait peut-être plus intéressant, des sous plutôt que du tri social. On aurait pu vous parler également de démocratie participative. Cette semaine, on a appris que la commission d'enquête qui a traité les avis de la population à propos des chronolignes à Le Mans valide tout. Ouais, y compris l'abattage des arbres. Alors pour savoir à quoi servent vraiment les enquêtes d'utilité publique, hein, on vous conseille toujours aussi chaudement le livre de Frédéric Graber, G-R-A-B-E-R, qui s'intitule « Inutilité publique », sous-titré « Histoire d'une culture politique française » aux éditions Amsterdam. Seulement, les opposants qui réclament un moratoire et l'étude de projets alternatifs ne l'entendent pas de cette oreille. Tout validé par l'enquête d'utilité publique, ça paraît tout à fait bizarre. Ouais, mais bon, lisez le bouquin. Rassemblement donc et déambulation pour préserver les 200 arbres de l'avenue Bollée. Ça se passera le samedi 25 mai 2024 à 10h30 au carrefour de la rue de la Mariette et de l'avenue Bollée. Donc vous allez faire un tour à la manifestation, place de la République à 10h. Vous filez avenue Bollée et vous revenez à la manif. Enfin bon, vous allez trouver le moyen. Sinon, demandez à vos voisins de vous représenter, vos voisins du dessus, du dessous, de partout. Le collectif se bat pour la sauvegarde de 200 arbres menacés par le projet Chronoligne le long de l'avenue Bollée au Mans, mais aussi des 230 autres arbres ailleurs qui sont tout aussi menacés d'abattage pour les autres chronolignes. Si vous voulez les contacter, eh bien, ils ont une adresse. collectif-arbre@bollee.no collectif-arbre@bollee.no qu'on se le dise, mais finalement, on a préféré vous parler de Alexandre Grothendieck. En janvier 2024 est parue une biographie de Alexandre Grothendieck qui a été écrite par Pierre Jouventin, un éthologue qui a travaillé avec Grothendieck à Montpellier. Une biographie intitulée « Qui était Alexandre Grothendieck ?» sous-titré « Pourquoi un génie des mathématiques est-il devenu un ennemi de la science et un précurseur de l'écologie ?» aux éditions Libre et Solidaire. Pour prolonger la lecture de cet ouvrage ou l'introduire, il nous est venu à l'idée de repasser cette semaine et la semaine prochaine les émissions de la saison 2020-2021 consacrées à ce mathématicien antimilitariste. C'est parti. Alexandre Grothendieck naît en Allemagne en 1928 d'une mère allemande et d'un père russe, juif, anarchiste le père. Cette épithète a son importance car, rapidement, le père part pour porter la révolution vers Paris, suivi par la mère. Les enfants, Alexandre et sa sœur, resteront en Allemagne dans une famille d'accueil. Quand les parents récupèrent leurs enfants, l'Europe se jette dans la guerre
Et le père, qu'il ne reverra pas, sera interné comme anarchiste et juif. Et la mère finira aussi internée, comme allemande, elle, et puis un peu anarchiste. Et voilà Alexandre encore séparé de son géniteur, on est en 1940, et de sa mère, après 1942. Il sera caché jusqu'en 1944. Il retrouve sa mère en 1946, s'installe près de Montpellier avec elle. Alexandre s'inscrit alors à l'université, en maths. Il monte à Paris en 1948, pour faire des maths. Ses biographes assurent que cette figure du père trop absent sera toujours présente et aurait peut-être favorisé sa révolte. Car Alexandre Grothendieck était une forte personnalité et un mathématicien hors pair. À la fin des années 50, il se retrouve à la tête de l'IHES, l'Institut des hautes études scientifiques, un institut créé pour lui. Il travaille alors sur la géométrie algébrique et passe son temps à noircir des pages de ce qu'il appelle des gribouillis qui donneront les éléments de géométrie algébrique. Seulement, dans les années 60, Alexandre Grothendieck s'implique de plus en plus dans le monde et sort de sa place de chercheur en sciences pures. En 1971, dans le numéro 6 de la revue Survivre, qui deviendra Survivre et Vivre quelques mois plus tard, il s'explique dans un article intitulé « Comment je suis devenu militant ?» Extrait. Il est assez peu courant que des scientifiques se posent la question du rôle de leur science dans la société. J'ai même l'impression très nette que plus ils sont haut placés dans la hiérarchie sociale et plus par conséquent ils se sont identifiés à l'establishment. Ou du moins contents de leur sort, moins ils ont tendance à remettre en question cette religion qui nous a été inculquée dès les bancs de l'école primaire. Toute connaissance scientifique est bonne, quel que soit son contexte. Tout le progrès technique est bon. Et comme corollaire, la recherche scientifique est toujours bonne. Aussi, les scientifiques, y compris les plus prestigieux, ont-ils généralement une connaissance de leur science exclusivement de l'intérieur, plus éventuellement une connaissance de certains rapports administratifs de leur science avec le reste du monde. Se poser une question comme « la science actuelle en général ou mes recherches en particulier sont-elles utiles, neutres ou nuisibles à l'ensemble des hommes ?» cela n'arrive pratiquement jamais. La réponse étant considérée comme évidente par les habitudes de pensée enracinées depuis l'enfance et léguées depuis des siècles. À force de se poser des questions, Alexandre Grothendieck deviendra de plus en plus rétif à l'acceptation de son statut. En 1966, il reçoit la médaille Fields, haute distinction mathématique. Mais comme il fallait aller à Moscou pour la recevoir, il décline l'invitation par soutien aux chercheurs soviétiques emprisonnés. En 1967, le voilà parti au Vietnam du Nord pour un court séminaire d'un mois, ce qui renforcera son antimilitarisme. On est en pleine guerre du Vietnam. En 1969, il découvre que l'Institut des hautes études scientifiques est financé à 5% environ par l'armée, ce qui l'amène à démissionner. Il croyait alors entraîner ses collègues, mais finira par partir seul. Il revient sur cet épisode dans un texte de 1985, un texte énorme de près de 1000 pages intitulé « Récolte et semaille », le tout au pluriel, et sous-titré « Réflexions et témoignages sur un passé de mathématicien ». Je parle ici et là dans « Récolte et semaille » de l'épisode de mon départ, sans trop m'y arrêter. Ce départ y apparaît plutôt comme une césure importante dans ma vie de mathématicien. C'est par rapport à ce point que constamment se situent les événements de ma vie de mathématicien, comme avant et après. Il a fallu un choc d'une grande force pour m'arracher à un milieu où j'étais fortement enraciné et à une trajectoire fortement tracée. Ce choc est venu par la confrontation dans un milieu auquel j'étais identifié fortement à une certaine forme de corruption sur laquelle jusque-là j'avais choisi de fermer les yeux en m'abstenant simplement de ne pas y participer. Avec le recul, je me rends compte qu'au-delà de l'événement, il y avait pourtant une force plus profonde à l'œuvre en moi. C'était un intense besoin de renouvellement intérieur. Un tel renouvellement ne pouvait s'accomplir et se poursuivre dans la tiède ambiance d'étuve scientifique d'une institution de grand standing. Derrière moi, 20 ans de créativité mathématique intense et d'investissement mathématique démesuré. Et en même temps, aussi, 20 longues années de stagnation spirituelle, en vase clos. Sans m'en rendre compte, j'étouffais. C'est de l'air du large que j'avais besoin. Mon départ providentiel a marqué la fin soudaine d'une longue stagnation et un premier pas vers une équilibration des forces profondes en mon être, plié et vissé dans un état de déséquilibre intense, figé. Ce départ a été véritablement un nouveau départ. le premier pas dans un nouveau voyage. Et un peu plus loin, en fait 175 pages plus loin, on peut lire. Avec le recul, je me rends compte qu'il devait y avoir en moi un besoin de renouvellement. Je ne saurais dire depuis quand. Ce n'est sûrement pas une simple coïncidence si l'année qui a précédé mon départ de l'IHES, il y a eu un soudain basculement de mon investissement d'énergie, laissant là les tâches qui la veille encore me brûlaient dans les mains, et les questions qui me fascinaient le plus pour me lancer sous l'influence d'un ami biologiste, Mircea Dimitrescu, dans la biologie. Je m'y lançais dans les dispositions d'un investissement de longue haleine au sein de l'IHES, ce qui était en accord avec la vocation pluridisciplinaire de cette institution. Sûrement ce n'était là qu'un exutoire au besoin d'un renouvellement beaucoup plus profond, qui n'aurait pu s'accomplir dans l'ambiance d'études scientifiques de l'IHES, et qui s'est fait au cours de cette cascade de réveils à laquelle j'ai déjà fait allusion. Il y en a eu 7, dont le dernier a eu lieu en 1982. L'épisode des fonds militaires a été providentiel en déclenchant le premier de ces réveils. Le ministère des Armées, tout comme mes ex-collègues de l'IHES, ont finalement eu droit à toute ma reconnaissance. En 1970, Alexandre Grothendieck abandonne la recherche, n'y trouvant plus de sens, et fonde le groupe Survivre. Toujours dans Récolte et Semaille, il nous présente le groupe en question. Survivre et Vivre, qui s'appelait d'abord Survivre sans plus, est le nom d'un groupe à vocation d'abord pacifiste, ensuite également écologique, qui a pris naissance en juillet 1970, en marge d'une summer school à l'Université de Montréal, dans un milieu de scientifiques et surtout de mathématiciens. Il a évolué rapidement vers une direction révolution culturelle, tout en élargissant son audience en dehors des milieux scientifiques. Son principal moyen d'action a été le bulletin, plus ou moins périodique, de même nom, dont les directeurs consécutifs ont été Claude Chevalet, moi-même, Pierre Samuel, Denis Gedge, tous quatre des mathématiciens. Sans compter une édition en anglais maintenue à bout de bras par Gordon Edwards, un jeune mathématicien canadien dont j'avais fait connaissance à Montréal et qui a été parmi les premiers initiateurs du groupe et du bulletin. Le premier bulletin, entièrement de ma plume, naïve et pleine de conviction, et tiré à un millier d'exemplaires, a été distribué au Congrès international de Nice en 1970, lequel réunissait comme tous les 4 ans plusieurs milliers de mathématiciens. Je m'attendais à des adhésions massives. Il y en a eu, si je me rappelle bien, 2 ou 3. J'ai surtout senti une grande gêne parmi mes collègues. En parlant de la collaboration des scientifiques avec les appareils militaires qui s'étaient infiltrés un peu partout dans la vie scientifique, je mettais surtout les pieds dans des plats bien garnis. C'est dans le grand nombre scientifique que j'ai senti la plus grande gêne. Les échos de sympathie me venant de là se sont réduits à ceux de Chevalet et de Samuel. C'est dans ce que j'ai appelé ailleurs le marais du monde scientifique que notre action a trouvé une certaine résonance. Le bulletin a fini par tirer à une quinzaine de milliers d'exemplaires. Un travail d'intendance dingue d'ailleurs, alors que la distribution se faisait artisanalement. Les dessins juteux de Didier Savard ont sûrement beaucoup contribué au succès relatif de notre canard. Après mon départ et celui de Samuel, ça a fini par tourner au groupuscule gauchiste, au jargon tranchant et aux analyses sans réplique. Et le bulletin a fini par mourir de sa belle mort. Ce qui avait été à comprendre et à dire, à un certain moment proche encore de l'effervescence de l'année 1968, avait été compris et dit. Il n'y avait guère intérêt après ça de faire tourner et retourner un disque à perpète. Alexandre Grothendieck était adepte du teach-in, c'est-à-dire l'utilisation des cours, séminaires, colloques et autres moments de regroupement des collègues pour placer ses idées, militer et réveiller les consciences. Quelles idées ? Eh bien, nous verrons cela la semaine prochaine. Eh bien sinon, la lutte continue contre l'A69, par exemple. Le collectif La Voix est libre a porté plainte la semaine dernière auprès de l'Union européenne contre l'État français, arguant que ce dernier ne respecte pas les règles de l'Union européenne en matière de gaz à effet de serre, notamment parce que l'État passe son temps à mettre en œuvre des aménagements routiers qui n'ont d'intérêt que pour la croissance du PIB et ceux qui en profitent. Dans la même veine, les opposants à la déviation du Faoué, une ville du nord du Morbihan, proposent une balade sur le territoire menacé par la déviation
l'association. Rendez-vous à 10h le 18 mai en face de l'hôpital local. Bon, j'imagine que vous n'êtes pas nombreux à aller sur place ce samedi 18 mai, surtout que vous avez un petit peu loupé le rendez-vous. Tout ça pour vous dire que dans la France entière, au plus près des ravages du délire capitaliste, des collectifs, des associations, des habitants s'organisent pour empêcher la destruction programmée de leur milieu de vie. Plus d'informations sur laderoute.org. Sinon, nouvel avis à la population, le centre social autogéré L'Allumette, situé dans le quartier de Pontlieu, a toujours besoin de sous et de compétences. Alors n'hésitez pas à les contacter en allant sur place, 7 rue de la Marne, les mercredis et samedis après-midi, lors des permanences, avec des activités aussi les autres jours utilisés. Bien sûr, les réseaux dits sociaux, il y a un Facebook, c'est @allumette.csca. Il y a un Insta, alors là c'est @l_8allumette. Et l'internet avec un mail, l'allumettelefeu@libremail.net, l'allumettelefeu tout attaché bien sûr, pas de tiret rien du tout, l'allumettelefeu@libremail.net et un téléphone 07 57 18 80 16, qu'on se le dise. Samedi 18 mai également 2024, comme le 11 mai, comme la semaine d'avant, comme depuis octobre 2023, à 14h place de la République au Mans, le collectif Justice et Paix 72 appelle à stopper le génocide en Palestine. Et notamment, la prochaine, on ne sait pas ce qu'ils vont faire, attaque sur la ville de Rafah, non au génocide et à la colonisation. Ça se passe le samedi 18 mai 2024 à 14h, place de la République au Mans. Et le mardi 21 mai, l'Assemblée du collectif Sartois des soulèvements de la terre, ça se passe à 19h30 à la Maison des citoyens citoyennes, place des Comtes du Maine. Plus d'informations sur le comité local, vous pouvez leur écrire en écrivant à les soulèvements de la terre 72@riseup.net. Et pour la 7e saison des actions des soulèvements de la terre, allez donc voir sur le site lessoulèvementsdelaterretoutattaché.org. Et bien sûr, le 22, le 25 contre le choc des savoirs, le 25 pour aller déambuler entre la place de la rue de la Mariette et l'avenue Bollé contre l'abattage des arbres. Trop de trucs à faire la semaine prochaine. Et bientôt, on vous parlera des Jeux Olympiques. Bouchez vos oreilles quand vous entendez de la propagande pour les Jeux Olympiques. C'est pas du tout aussi joli que ce qu'on veut nous faire croire. Eh bien, en attendant de se retrouver, je ne sais pas où, je ne sais pas quand, je vous dis tout simplement, allez, au revoir.